ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ruben. Je suis pasteur à l'église de Lagny-sur-Marne, donc depuis maintenant presque 2 ans. Et très content de pouvoir encore servir le Seigneur, comme le disait Francis dans sa prière, à travers la prédication de la parole. Quelque chose de très important. Donc, on a un texte très intéressant cet après-midi, n'est-ce pas ? Des éléments qui, je vous avouerai, avant ce message, je ne m'étais pas arrêté à fond dessus. Donc, on m'avait obligé de bien m'arrêter dessus. Donc, je vous remercie. Mais surtout, on remercie le Seigneur pour sa parole. On est en train de parler de Timothée. Donc, Timothée, je pense que vous... Non, pas toi. Timothée, donc, vous savez que Paul l'a laissé à Éphèse, dans l'église d'Éphèse. Donc, je pense que vous l'avez vu, pour régler pas mal de problèmes, et en particulier des problèmes de leadership. Et là, on va voir un texte qui, justement, parle des responsables et du rapport que l'Assemblée doit avoir à ses responsables, et le rapport que Timothée, en tant que personne qui va établir des responsables, doit avoir avec ses responsables. Donc ici, le terme de traduction, c'est « ancien ». Ancien. Et donc, je pense que vous l'avez vu, mais dans l'Église, d'une façon générale, du Nouveau Testament, il y a 2 populations clairement identifiées en plus de l'Assemblée. Il y a les anciens, les responsables premiers, et il y a les diacres. Donc, qu'on a vu, que vous avez vu normalement, hein, dans 1 Timothée. Donc, les anciens ici sont vraiment les premiers responsables de l'Église. Et Timothée a été sommé par Paul pour mettre en place des anciens. Des responsables, les premiers responsables, ceux qui vont en particulier enseigner l'Église. Et vous allez voir que la tonalité du texte, on l'a déjà lu tout à l'heure, mais elle est particulièrement sérieuse. On connaît notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu d'accueil, et encore encouragé par une sœur qui va se faire baptiser. Oui, parce que c'est ce que le Seigneur veut faire, prendre des gens, quelle que soit ta situation, ton passé, il t'accueille. Et il te dit « Bienvenue, j'ai payé pour toi ». Mais il y a aussi cette partie du Dieu trois fois saint. Un Dieu qui n'aime pas le péché, qui déteste le péché, qui hait le péché. Et c'est vrai que quand on est sous la grâce, on remercie le Seigneur parce que toutes les conséquences de nos péchés sont parties sur Jésus. Et béni soit-il. Merci Seigneur, je ne pourrais pas me tenir devant vous si ce n'avait pas été le cas. C'est Christ qui a pris mes péchés, toutes les mauvaises choses que j'ai faites, les mauvaises pensées que j'ai eues, que j'ai encore parfois, c'est Jésus-Christ qui les a portées et Dieu a frappé Jésus à cause de mes péchés. Et donc, je n'ai plus à subir les conséquences de mon péché. Mais Dieu reste le même. Le péché a des conséquences. Le péché demande punition. Et les anciens sont censés être le représentant, les piliers de la vérité de l'Église. Vous verrez, vous l'avez vu dans 1 Timothée chapitre 3, quand Paul a fait établir des anciens, il donne des critères très précis. Il dit au verset 1 du 1 Timothée chapitre 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc ici épiscopaï, mais qui est aussi les leaders de l'Église, les anciens, les responsables, donc on est vraiment dans la même population, ils désirent une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Quelle liste, hein, n'est-ce pas ? Des critères importants pour les responsables d'Église. Mais pourquoi des critères aussi importants ? Parce que, au-delà de nous sauver, Jésus-Christ nous transforme. Au-delà de dire « Bienvenue, tes péchés te sont pardonnés », il fait en sorte que notre caractère change. Il fait en sorte que nos attitudes changent. Et c'est l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste être sauvé de la mort et être sauvé de l'enfer. C'est être sauvé des conséquences et de l'emprise du péché dans ma vie au quotidien. Si j'étais menteur, je ne le serais plus. Si j'étais voleur, je ne le serais plus. Si j'étais quelqu'un qui méprisait les autres, je ne le serais transformé. Et donc, l'évangile transforme l'homme, et on l'a dit tout à l'heure dans les prières, à l'image de Jésus-Christ, dans la sainteté. C'est vrai qu'il n'est pas saint tout de suite, c'est vrai que je ne suis pas saint tout de suite, et moi encore, j'ai encore du chemin avant de ressembler à Jésus-Christ, mais je suis en chemin. Et pourquoi des critères aussi importants pour l'ancien? C'est parce que cet homme, ces hommes, c'est toujours un groupe d'hommes, ou pasteurs, ces responsables d'église, eh bien, ils doivent montrer qu'ils ont compris l'évangile, qu'ils vivent l'évangile, que la puissance de l'évangile a une action. Pas juste qu'ils savent parler, ils savent enseigner, ils savent comprendre la Bible. Il faut montrer qu'au quotidien, la façon dont ils vivent est transformée par l'évangile, que leurs paroles sont contrôlées, que leurs attitudes envers les autres sont bien aimantes, bienveillantes. Et ces hommes-là sont établis comme autorité. Autorité dans l'Église. Ça veut dire que ce qu'ils vont dire, ils vont prendre la parole de Dieu et ils vont communiquer ce que la Bible dit pour que nous puissions la suivre. Et c'est pour ça que Paul, quand il va écrire à Timothée dans le texte qu'on a lu, va avoir un rapport spécial vis-à-vis de ces hommes-là. Oui, ce sont des pécheurs comme nous. Oui, ce sont des hommes qui ont aussi eu leur période et ont dû être sauvés et lavés de leurs péchés, mais ils sont établis comme responsables, comme anciens. Et donc voilà quatre particularités que Paul va traiter dans ce texte. La première, il va parler de l'honneur des anciens, ou des responsables, ou des pasteurs. Donc en particulier dans votre église, ce sera pasteur Daniel. Mais toute personne qui finalement est reconnue comme responsable et ancien dans l'église, apte à enseigner, à diriger. Deuxièmement, il va parler de la protection des anciens. Troisièmement, il va parler de la correction des anciens. Et enfin, de la sélection. Donc, premièrement, il va parler de l'honneur des anciens. Je vais vous relire le texte, c'est au verset 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Alors, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Intéressant. Donc, dans d'autres versions, double marque d'honneur. Et ce que cela veut dire, c'est pas... Quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous ne dites pas juste deux fois bonjour à l'ancien, hein, n'est-ce pas? Double honneur, ce que je le ferai deux fois à l'autre. Non, c'est une expression pour montrer que le respect que je dois à tout le monde finalement, hein, pas particulièrement juste à l'ancien, dans l'église, on veut se respecter toutes et tous, n'est-ce pas? Ah non, tu n'es pas ancien, je ne te respecte pas. Hein. Non, on se respecte toutes et tous parce que Jésus-Christ nous a aimés et il aime aussi, je veux le respecter. Mais l'ancien, parce qu'il a été établi comme autorité dans l'Église, que c'est lui qui enseigne, je veux particulièrement l'honorer. Dans certaines cultures, c'est assez facile. Moi, dans la culture malgache, normalement, les anciens, et en particulier les anciens en âge, on les respecte, il faut. C'est une réalité. Je pense aussi dans beaucoup de cultures aujourd'hui encore. Dans la culture occidentale, maintenant... Ça devient un peu difficile. Par exemple, maintenant, je remarque que si une personne âgée est debout, il ne va pas toujours se lever, n'est-ce pas? Alors que ça devrait être normal. Ah non, j'ai eu ma place là, attendez. Vous savez, maintenant, dans les RER, c'est le combat pour avoir la place. Et dès que tu l'as, tu te dis, je ne la lâche plus. Et un jour, je me rappelle, donc, dans les RER, il y avait, vous savez, les places réservées pour les femmes... Pour les femmes. Et donc, une femme enceinte arrive. Il y avait quatre personnes qui n'avaient pas l'air d'être enceintes, qui étaient assises. et pas âgé non plus, et personne n'ose la regarder. L'honneur. Et là, elle a osé demander, et puis une personne l'a regardé, il a dit « Ok, d'accord. » Mais l'honneur. Donc en France, je crois que c'est un défi, l'honneur des anciens, l'honneur des responsables d'une façon générale. Parce que culturellement, la France a une culture de revendication qui est bonne. Il y a une bonne partie de la revendication. On ne veut pas rester dans, si on était dans quelque chose de qui ne marche pas, on ne veut pas forcément y rester. Mais parfois, cela peut pousser à dire, on est tous pareils, même si tu as plus d'années, même si tu es responsable, ça ne m'intéresse pas. On a tous le même niveau. La parole de Dieu dit oui, mais les anciens sont établis. Établis comme autorité. Et ici, que les anciens reçoivent un double honneur. Et il dit en particulier ceux qui prêchent bien, ceux qui travaillent particulièrement. Alors, c'est assez délicat hein, de mettre qui prêche bien ou pas bien, n'est-ce pas ? Certains vont dire lui, il prêche bien, il prêche bien. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est si quelqu'un, donc, dans certaines versions, il montre que c'est l'exercice de la prédication, quelqu'un qui va s'y consacrer. Et dans notre monde actuel, je dirais, là où on pourrait se dire, est-ce qu'on doit payer tous les anciens ? Alors, après, je dirais que je laisserai la responsabilité aux responsables de votre église de réfléchir par rapport aux diacres. Vous avez des diacres qui sont élus, reconnus, dans quelle mesure ils sont autorité ou pas autorité, ça je pense que c'est à l'église locale d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce que la parole de Dieu dit, c'est que dès qu'une personne est établie comme enseignante, elle doit recevoir un double honneur. Et dans cette notion de double honneur, on pense aussi à honneur financier, pécunier, monétaire. Donc Paul très rarement va montrer qu'il parle d'argent, hein. Il ne va pas utiliser le terme argent, mais il va souvent utiliser libéralité ou d'autres termes. Et ici, double honneur, on peut vraiment vraisemblablement penser qu'on parle d'argent. Et donc ce qu'on va comprendre aujourd'hui dans notre monde, c'est que quelqu'un qui va s'y consacrer de façon plus importante, par exemple quelqu'un qui a plein qui travaille, il va se dire tiens moi j'ai envie de me consacrer, il est reconnu par l'église, on lui dit tu enseignes bien, on veut que tu sois ancien ou prédicateur à mi-temps, c'est possible, et donc on va dire que là on devra financer cette personne là, ou tout simplement un pasteur qui va se consacrer à 100%, on devra financer cette personne. Et le financement des personnes qui travaillent pour le service de l'évangile se fait avant tout par les personnes qui bénéficient de l'enseignement. Et donc, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, je ne vais pas vous lire tout, mais parle justement du droit qu'il avait d'être financé par l'église qu'il enseignait dans les Corinthiens. Et il dit, je ne veux pas prendre ce droit, mais c'est un droit que j'ai. Et il va réutiliser la même expression qu'il dit ici. Alors, je vais vous lire juste là l'expression. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 9, tu n'emmesuleras point le bœuf quand il foule le grain. Et après, il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs ? Vous avez vu, il fait un peu d'humour, Paul. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance qui doit avoir part. Et donc, on voit ici que l'ancien, le pasteur, les responsables qui sont consacrés à la prédication, il est normal qu'on les finance. Donc ici, voilà les textes qui vont défendre cela. Honneur, respect, et il y a vraiment cette notion du respect qu'on doit communiquer aux anciens, aux responsables et aux pasteurs. Et puis Pierre lui-même reprendra cette expression, « Vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Dans 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 5. Donc l'ancien est quelqu'un qui a été établi. Et quand j'ai entendu le témoignage de la sœur tout à l'heure qui disait « je vais me faire baptiser », je me dis « oui, quand on est dans l'église, on ne parle pas juste d'un jeu, on n'est pas un club de foot ou un club d'une passion quelconque, on parle de la vie. Et pas juste de la vie sur terre, on parle de la vie éternelle. Donc on parle de quelque chose d'absolument sérieux. Et on parle du Dieu trois fois saint et du Dieu vivant. Donc quand le Seigneur nous accorde des anciens et des responsables pour nous instruire, alors voyons derrière des personnes qui nous servent au nom de Jésus-Christ. Et on veut absolument les respecter, les honorer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autres, mais ça veut dire qu'on veut leur donner un respect particulier et qui peut se manifester par un financement. qui doit se manifester par un financement pour ceux qui s'y consacrent avec plus de temps. La deuxième chose que Paul aborde, après avoir parlé de l'honneur des anciens, il parle de la protection des anciens. Et vous savez que, hein, on dit, c'est souvent ceux qui font beaucoup, qui sont beaucoup critiqués, et ceux qui font peu, n'est-ce pas, qui vont souvent parler. Et donc, quand tu es ancien, quand tu es responsable, quand tu es en première ligne, il est normal que tu sois critiqué. Mais là, Paul dit à Timothée, attention, attention, n'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Paul veut protéger les anciens. Paul veut protéger leur réputation. C'est des hommes et la langue, vous le savez, peut faire de très très grands ravages. Même dans un ministère d'un homme. J'ai des amis, ils n'avaient rien fait, mais ils ont juste été l'objet de calomnies, de gens qui ont cru ce qu'on leur a dit sur eux, des responsables, et qui ont mis du temps pour rattraper ce qu'on leur avait dit sur eux. Et donc là, Paul, il dit, n'accepte pas d'accusation contre un ancien. Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, bonne protection. Bonne protection. C'est une règle que l'Éternel avait déjà établie dans l'Ancien Testament. On ne pouvait pas condamner à mort quelqu'un si ce n'était pas au moins deux ou trois personnes qui confirmaient qu'il avait fait quelque chose qui méritait la mort. Et dans Deutéronome, il dira que toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Paul reprendra cette expression en 2 Corinthiens 13, verset 1. Et donc, il y a cette notion quand même de protéger par rapport à la parole. Et je nous encourage mutuellement à être bienveillants dans nos paroles. On parle facilement des uns des autres. On condamne facilement. Et malheureusement, on fait du mal facilement. Et la parole de Dieu nous encourage. Dans Jacques, hein, vous connaissez bien que la langue est comme un feu, un petit morceau ici, et c'est la forêt qui s'embrase. C'est pas parce que c'est pas un ancien qu'on veut pouvoir parler de lui, mais quand c'est un responsable d'église, on veut être d'autant plus attentif. Et si quelqu'un vous parle d'un responsable d'église, soyez prudent et demandez un écho secondaire de deuxième personne qui a vécu la même chose, qui a vu la même chose, qui confirme la même chose, voire un troisième, parce que la parole peut faire de grands dégâts derrière. Et Proverbe 26, verset 22, compare les critiques à la friandise. Vous savez, quand on entend quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre, moi je me suis dit, pourquoi est-ce que ça nous va quand quelqu'un nous parle de quelqu'un d'autre et qui critique? Et je me suis dit, ah tiens, c'est parce que, imaginons, quelqu'un vient me voir et me dit, ah, t'as vu, telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Je me dis, au moins, c'est que c'est pas moi. Au moins, je ne suis pas comme ça si elle me le dit. C'est pour ça qu'on est un peu protégé. Ah oui, oh là là, c'est dommage. Mais voilà, n'accepte pas que le Seigneur nous préserve d'entendre et de recevoir, et puis après de, hein, n'est-ce pas? On dit le téléphone arabe, mais parfois c'est le téléphone évangélique. Hein. Quelqu'un t'a dit quelque chose, et puis tu le communiques à l'autre, tu sais ce qu'il a fait, lui. Essayons d'arrêter ça. N'accepte pas d'accusation contre un ancien. Si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Et ça me fait penser aussi au texte de... Je fais un parallèle avec le texte de Matthieu, chapitre 18, où Dieu parle de la démarche qu'il doit y avoir quand quelqu'un a péché. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors tu ne vas pas juste pour le détruire et lui dire « Ah, t'as vu ?» Non, c'est pour le gagner. Parce que le plus important, c'est qu'il marche avec Jésus-Christ. Ce n'est pas juste que tu dises « Je lui ai dit, ça y est, boum, ça y est. » Non, c'est le gagner. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes avec toi qui ont vu, qui vivent, qui ont compris, qui disent « Oui, effectivement, ce qu'il a fait ne va pas et je vais aller le voir avec toi. » On va aller le voir avec toi, on va lui dire « Ça ne va pas. Vivre avec cette fille sans être marié, ça ne va pas, effectivement. Critiquer les autres comme ça, comme tu le fais régulièrement, ça ne va pas. Prendre dans la caisse, ça ne va pas. Oui, effectivement. S'il vous écoute, c'est bien. Mais s'il ne t'écoute pas, alors là, tu le dis à l'église. Et s'il n'écoute pas l'Église, alors qu'il soit mis comme un publicain ou quelqu'un qui est de l'extérieur de l'Église. Et là, l'apôtre Paul reprend un petit peu, alors pas le process exact, mais deux ou trois personnes qui viennent dire à un ancien, à un responsable, à une personne qui a été identifiée comme ayant une attitude reprochable. Et tout à l'heure, on a lu les critères de l'ancien. Deux ou deux, trois témoins. Le reste... Je n'accepte pas. Je veux protéger les anciens. Je veux les préserver, car je sais les conséquences que les paroles peuvent faire. et je veux les honorer. Je veux les protéger. Le troisième sujet que Paul va aborder, c'est la correction des anciens. On les honore, on les protège. Mais imaginons, voilà, justement, un ancien est pris en flagrant délit, confirmé par deux ou trois personnes d'une attitude reprochable, condamnable, et il se maintient dans son péché, où il a péché, il est tombé. Et là, ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on ne le voit pas souvent. Ceux qui pêchent, verset 20, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Waouh, n'est-ce pas ? C'est vrai que moi, j'aimerais pas que vous me repreniez devant tout le monde. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi ? Parce que quand j'établis une personne comme responsable, alors les termes utilisés pour le responsable, pasteur, dirigeant, pasteur, c'est berger. C'est quelqu'un qui me donne une direction. Et je pense qu'on est tous conscients d'histoires où des pasteurs ont dirigé leur troupeau dans la mauvaise direction, n'est-ce pas ? Et Jacques dira que nous ne soyons pas beaucoup à enseigner parce qu'on nous demandera d'autant plus à nous qui enseignons. Et là, c'est une des façons de le montrer. Parce que quand je communique un message, des gens me suivent. Et là, comme je disais, on ne parle pas juste d'un club de moto ou d'un club de quelque chose. On parle de la vie, de la direction qui mène à la vie ou à la mort. C'est pour ça que Jésus a été tellement dur avec les pharisiens. Tellement dur avec eux. Il y avait des prostituées à côté de lui, il aurait pu leur dire, mais filles de mauvaise vie, qu'est-ce que vous passez votre temps à aller vers ces hommes ? Il y avait des collecteurs d'impôts qui avaient voyé dans la caisse, ils le savaient. Il a attaqué les pharisiens parce que ces hommes-là donnaient des enseignements et donnaient une direction. Et là, on parle de quelque chose d'absolument sérieux. On parle de la vie et de la mort et de la vie éternelle et de la mort éternelle. On parle du péché qui est pardonné ou du péché qui reste dans la vie de la personne. Et donc, Paul, c'est pour cela qu'il dit, on n'est pas en train de jouer un jeu quand on est ancien. On est en train d'être les représentants de Jésus-Christ. On est les bergers du troupeau. On nous a confié le troupeau de Jésus-Christ. On se donne à ce troupeau et on avance avec lui. Et donc, il nous écoute, ce troupeau. Mais de ce fait, si je mets de côté l'enseignement que j'ai reçu, moi, en tant qu'ancien, si je commence à laisser rentrer le péché dans ma vie et que je me maintiens dedans, alors je ne suis pas juste un risque pour moi-même, mais un risque pour tous ceux qui m'écoutent. Et c'est pour ça que Paul, dans le souci de préserver l'Église, dit « Reprends les anciens, afin qu'ils éprouvent de la crainte. » Et la crainte, ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien, parce que la crainte, voilà, on a peur. Mais dans le fonctionnement de la marche chrétienne, c'est quelque chose d'important. Se rappeler que Jésus est notre ami, oui. Et c'est ce qu'il a dit, vous êtes mes amis. Et je vous dis ces choses. Se rappeler que Dieu est notre Père, oui. C'est important et c'est crucial. Et on ne peut pas avancer dans la foi chrétienne si on ne le sait pas et si on ne le croit pas. Et l'Esprit Saint lui-même pointe que Dieu est notre Père. Mais se rappeler que Dieu est notre Dieu. Que Dieu est saint et pur, ça c'est très important aussi. Et donc nous devons avoir de l'amour et de la joie pour Dieu, mais aussi de la crainte que chaque péché, il le déteste. Et il condamne cela. Et je pense que vous avez déjà parlé de cette liste. Vous avez entendu parler d'Ashley Madison ? Peut-être pas, c'est aux États-Unis. Il y a un site internet, donc c'est assez hallucinant. Maintenant, ils arrivent à faire des sites internet pour les gens mariés, s'ils veulent rencontrer d'autres gens mariés. Donc, si des hommes veulent rencontrer des femmes mariées. Donc, Ashley Madison, hallucinant, on n'allait jamais dessus. Attention, hein, je n'ai pas dit ça pour que... Je reprendrai en public. Eh bien, ce qui s'est passé, les amis, je vais vous dire, des pirates sont allés sur ce site internet et ont récupéré les bases de données des personnes dessus. Ils se sont amusés. Ils ont dit, on va encore plus s'amuser, on va publier les gens qui étaient dessus. Waouh ! Il y a eu des trucs de fou, hein. Il y a eu des carrières brisées. Il y a des stars qui étaient dessus. Pire, il y avait des pasteurs qui étaient dessus. Et là, je me dis, voilà ce qui peut arriver quand on se laisse pénétrer par le péché. Évidemment, les églises ont immédiatement démissionné ces personnes, ou elles-mêmes ont démissionné. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de l'histoire malheureuse que ça a été, c'est que ça a créé la crainte. On se dit, on rigole pas quand on est pasteur. Bon, c'est joyeux, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Je suis heureux, absolument heureux de ce travail-là. Mais c'est une tâche saine, où il y a une responsabilité supplémentaire qui m'est demandée. Je ne suis pas censé, même si la prière est un problème pour tout le monde, je suis censé faire encore plus que les autres. Non pas que je suis meilleur, mais c'est, si je conduis le peuple de Dieu, je dois être censé avancer avec la puissance de Dieu. Je ne peux pas amener les gens là où je ne suis pas allé, même si je sais que c'est la grâce de Dieu qui m'a amené par là. Mais c'est qu'au moins j'ai vu et vécu la grâce de Christ. On a besoin de la grâce de Dieu. Priez pour votre pasteur, priez pour vos responsables, vos diacres, priez pour ceux qui enseignent dans cette église, que Dieu leur donne de comprendre que leur tâche est une tâche saine, parce que Dieu est un Dieu saint. Mais une fois que cette tâche est abordée avec grâce, humilité et confiance, mais c'est la plus belle des puissances. Paul y dira, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'est-ce pas ? Moi, chaque baptême, mais c'est la fête dans l'église. Parce qu'on se célèbre que des gens sont nés de nouveau et changent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est notre tâche, c'est communiquer ça. C'est communiquer ça, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre. C'est joyeux, mais c'est saint. Et Paul appuiera, il dira, je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, devant les anges élus. Suis ses instructions sans préjugés et ne fais pas de favoritisme. Et je peux vous dire qu'en tant que responsable, quand je dois reprendre des gens, je vous avouerai qu'il y en a certains que je reprends plus facilement que d'autres. Les jeunes et tout, je peux aller facilement les voir. Quand c'est un ancien qui a 30 ans de ministère et il sait très bien parler, j'ai un peu plus de difficulté à aller le voir. Mais il dit, je t'en supplie Ruben, ne fais pas de favoritisme. T'es allé voir cette personne-là, ce jeune, va autant voir cette personne-là. Tu as condamné celui qui a couché avec une femme, condamne celui qui critique les autres à fond. Parce que c'est les deux, c'est des péchés. Tu détruis la philosophie qui accepte que l'homosexualité est selon la volonté de Dieu, détruis la philosophie qui accepte l'évangile de prospérité. Au même titre, pas de favoritisme. Sois juste dans ton attitude à reprendre les autres. Le péché, c'est le péché. Et Paul encourage Timothée à ne pas lésiner avec cela. Si tu le fais pour l'un, fais-le pour l'autre. Et Jacques parlera du favoritisme. Et d'une façon générale, le favoritisme, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions dans nos vies. Même si nous ne sommes pas anciens, Dieu veut que nous soyons justes les uns envers les autres. Ce que tu as fait pour ton frère, que tu aimes bien, fais-le pour ton frère, que tu n'aimes pas bien. Jésus dira, si vous dites bonjour seulement à ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de plus que les païens ? Allez voir aussi, dites bonjour à ceux qui ne vous aiment pas. N'est-ce pas ? À qui vous ne dites pas bonjour à l'église ? Allez-y à la fin de la sortie. Ruben m'a dit de te dire bonjour, donc... Oups ! Ensuite, j'ai jusqu'à 18h, c'est ça ? Non ? Non, excuse-moi, il me reste combien de temps, pardon ? Merci. Ne pose pas les mains sur une personne avec précipitation. Là, on passe à la quatrième. Donc, première, c'était l'honneur qu'on doit donner aux anciens. Et tout ce que je vous ai dit, c'est des choses qu'on doit faire chez les uns et chez les autres, mais en particulier pour l'ancien. On doit s'encourager à ne pas marcher dans le péché, mais en particulier l'ancien. On ne doit pas faire de favoritisme, mais en particulier les anciens. Et la quatrième, c'est ne pose pas les mains, donc c'est la sélection des anciens. Et là, je me suis inspiré de John MacArthur pour bien comprendre cette partie-là. Ne pose pas les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Et quand on regarde un petit peu l'imposition des mains, donc il y a différentes façons où des serviteurs de Dieu imposent les mains, mais là, en particulier, donc quand on regarde le contexte de 1 Timothée, notamment 1 Timothée 4, verset 14, qui parle du don que Timothée a reçu après l'imposition des mains, 2 Timothée 1, verset 16, je te rappelle, ravive la flamme que tu as reçue par l'imposition des mains. On comprend, et puis on voit aussi dans acte 6, acte 13, que l'imposition des mains est utilisée pour consacrer quelqu'un dans le ministère. Et ceux qui consacrent souvent, soit des égaux, soit des personnes qui sont en autorité, s'associent à cette personne et valident son ministère. Et disent, oui, j'ai vu dans cet homme-là les caractéristiques, les critères qui feront que cet homme-là sera prophète, ou sera pasteur, ou sera ancien, ou sera diacre. Donc je confirme, en imposant mes mains, je m'associe à cette personne et je communique aussi la grâce que j'ai reçue de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu demeure sur cette personne et que cette personne œuvre avec la puissance de Dieu. Et je prie pour cette personne et je m'associe à elle. Et ici, Paul dit, ne pose les mains sur personne avec précipitation. Et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Et vous avez vu que dans 1 Timothée 3, qu'on a lu tout à l'heure, les critères sont nombreux, n'est-ce pas ? Une vie exemplaire. Donc, ne sélectionne pas des pasteurs ou des anciens ou des diacres, on pourrait dire aussi, trop vite. Vous avez vu, il disait, il ne faut pas qu'il soit un jeune converti de peur qu'enflé d'orgueil tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de celui dehors. Donc ici, Paul parle de savoir prendre le temps. C'est comme ça que beaucoup de commentateurs comprendront qu'il y a une solidarité, une consécration quand tu imposes les mains, en particulier pour une consécration dans le ministère. Et donc tu t'associes à cette personne-là. Et puisque cette personne-là sera le messager de Dieu pour l'assemblée, alors ne la confirme pas trop vite. Prends le temps de la confirmer en voyant son attitude et sa vie. Et à un moment, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que le verset 23 arrive et c'était quoi le lien avec tout le reste ? Vous savez, je vais vous lire le verset 23. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin, à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Très apprécié en France, hein, n'est-ce pas ? Il aurait dû mettre un Bordeaux, là ce serait encore mieux. Mais je me suis dit, mais c'est quoi le lien avec les anciens et tout ? Alors, c'est là que je me suis aidé de certains frères qui ont passé un peu plus d'heures que moi, voire d'années que moi dans la parole. Il dit « Toi-même, garde-toi pur dans la fin ». Et ce qu'on comprend, c'est qu'on se rappelle que Timothée a fait un vœu de Nazaréen. Donc, c'est un vœu où des hommes décident de ne plus boire d'alcool, entre autres. De ne plus toucher à de l'alcool. Donc, c'est vrai que là, vous voyez ce texte et vous dire quoi ? Paul en train de parler, et pas du vin désalcoolisé, hein, maintenant ça existe, du vin avec de l'alcool à ce moment-là, voilà, c'est des vins avec de l'alcool. Donc plus boire de vin, plus boire d'alcool. Ça c'était le choix de Timothée, vous le verrez dans Actes, vous le verrez dans d'autres. Voilà, il a fait ce choix. Et il lui dit au verset 22, ne pose les mains sur personne avec précipitation, ne t'associe pas au péché d'autrui, toi-même garde-toi pur. Le Nazaréen a décidé de se garder pur. Et là, ce que les commentateurs diront, et je vais les suivre dessus, ils disent, en parlant de pureté, Timothée, c'est bien que tu aies fait ce vœu de Nazaréen, mais au vu de ta situation de santé, prends un peu de vin. Au même titre que quelqu'un décide de ne jamais toucher à de la drogue. Mais s'il en a besoin, il prendra les. S'il doit se faire opérer, on a beaucoup d'amis dans l'église qui se font opérer, et là, on va leur donner des calmants ou des. Qui peuvent être vus comme des drogues, qui sont prises comme des drogues pour certains, la morphine prise pour des drogues par certains, il y a l'opium, etc. Donc, c'est des calmants, et ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés dans le péché, mais c'est dans une situation extrême et particulière, là, j'ai besoin de ça pour être opéré. Et vous savez qu'en ce temps-là, le vin était vu comme un médicament, ou en tout cas comme quelque chose qui avait des vertus thérapeutiques. Donc ça, c'est vu, Hippocrate le confirme, etc. Donc ça, il y a beaucoup de... Dans ce temps-là, le vin était vu comme, pris avec modération évidemment, comme ayant des vertus thérapeutiques. Et donc c'est ça, cette parenthèse, c'est comme une parenthèse que Paul fait à Timothée en lui disant ça, mais cela ne doit pas lui enlever. Et donc c'est un encouragement à notre ami Timothée, qu'il a fait un choix de pureté et Paul l'encourage à rester là-dedans. Mais parfois, il a besoin de prendre des médicaments et qu'il puisse le prendre. Voilà, donc, c'était ça la parenthèse. Et là, il reprend ensuite, au verset 24 et 25, le même sujet qu'il a dit tout à l'heure. Ne pose pas les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Et donc, je continue, verset 24 et 25. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais à d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas, elles peuvent rester cachées. On voit donc le lien cette fois-ci. Paul, quand tu sélectionnes quelqu'un pour être ancien, pour être pasteur, prends le temps d'analyser, prends le temps d'étudier. Il y en a certains, ce sera clair. Pas besoin de chercher. Leurs péchés sont très clairs. Ne les prends pas. Il y en a d'autres, tu devras prendre un peu plus de temps. Il y en a certains, leurs œuvres sont magnifiques, leur soutien des autres est beau, leur cœur pastoral est clair, leur amour du prochain, leur amour du Seigneur est là. Vois, confirme avec eux. Voilà un petit peu ce que Paul voulait établir. Quatre choses dans cette parole-là. L'honneur que nous devons avoir, évidemment les uns pour les autres, mais pour les anciens en particulier, qui peut s'exprimer de façon financière. La protection que nous devons avoir les uns pour les autres aussi. Attention, frères et sœurs, quand on critique un autre frère, mais en particulier les responsables, les anciens. Savoir laisser deux ou trois témoins. La correction des anciens. Nous nous corrigeons mutuellement, mais les anciens, ayant cette position d'honneur, ayant cette position d'enseignement, d'autorité, de direction, lorsqu'ils s'écartent, il est nécessaire d'avoir aussi une démarche. Alors après, est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que ça se fait dans le temps? La façon qu'elle se fait, je pense que c'est par église locale et par cas, par situation. Quatrièmement, la sélection des anciens, c'est des hommes qui, par leur témoignage, par leur vie, montrent qu'ils ont compris l'évangile et qu'ils le vivent. Et donc, quand tu t'associes à eux, prends le temps de les évaluer, même on pourrait dire, et prier pour eux. Mais tout ça est là, les amis, parce que, encore une fois, on parle de quelque chose qui transforme les vies. On parle de quelque chose qui nous fait passer de la mort à la vie. Et donc, on parle de quelque chose qui vaut le coup d'être vécu et qu'on doit donner tout ce que nous sommes dedans. L'évangile mérite qu'on donne toute sa vie. Jésus-Christ mérite qu'on lui donne toute sa vie. Les chants qu'on a chantés tout à l'heure, mais ils étaient merveilleux, n'est-ce pas? Ils nous parlaient de la beauté de Jésus-Christ. Alors donnons-nous à 200% pour lui. Ne laissons aucune once de péché nous souiller. Parce que notre louange, notre adoration sera bloquée par cette attitude. Dès que nous voyons quelque chose dans notre vie qui n'honore pas Dieu, alors mettons-le de côté. Prenons le temps de confesser, de dire « Seigneur, je ne veux plus être comme ça, je ne suis pas comme ça par la puissance de ton Esprit Saint. » Peut-être que vous êtes quelqu'un d'absolument anxieux, peut-être que vous êtes quelqu'un d'absolument colérique, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à ne pas parler des autres, manque de patience, ou peut-être un peu plus grave. Mais le Seigneur va vous dire « Viens et libère-toi de cela. » Déjà, confesse-le et ensuite, marche dans la sainteté parce que la puissance de l'Esprit va t'aider. Et c'est pour ça que les anciens, qu'il est possible de trouver des anciens, merci Seigneur, des hommes qui vivent selon la valeur de Dieu. Parce que l'Évangile a ce rôle-là et transforme. Ce n'est pas juste une fois vous êtes sauvés et puis maintenant on attend que Jésus-Christ revienne en morflant, en se traînant dans le péché. Non, merci Seigneur, il nous sort de la boue. Il nous sort de la boue. C'est la puissance de Jésus-Christ qui veut faire ça. Et petit à petit, échelon par échelon, on avance de sainteté en sainteté, de gloire en gloire, à l'image de Jésus. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il vous appelle à être, c'est ce qu'il nous appelle à être. Et on peut encore remercier le Seigneur pour cet appel. Et à l'église de Saint-Maur, qui est en train de chercher un pasteur, moi je vous dis, je pense que vous le faites déjà, mais dans 1 Timothée, on a des magnifiques critères qui doivent être dans la personne que vous allez prendre. Et merci Seigneur, ça existe. Alors personne n'est parfait, mais cette personne-là doit être en progression dans cette direction. Et merci Seigneur, ça existe. Merci Seigneur, ça existe. Et dans l'Église aussi, c'est notre désir de ressembler à Jésus-Christ et la puissance de l'Évangile qui transforme les uns et les autres pour que nous ressemblions à Jésus. Donc, venons à la croix, confessons nos péchés, ne laissons rien passer. Même si nous ne sommes pas anciens, ne laissons rien passer. Mais une fois que nous faisons ça, Dieu va nous aider à être transformés à son image. Ne laissons aucune once de péché nous habiter. Confessons-la, mettons-la au pied de la croix et laissons la puissance de Dieu nous transformer. Et rappelons-nous que nous servons le grand Dieu Tout-Puissant, le trois fois Saint, qui mérite qu'on lui donne toute notre vie. Et derrière, lui s'occupe du reste. Tes études, ta carrière, ta vie sentimentale, ton avenir, ta santé, il s'en occupe. La chose qu'il te demande, c'est ta sainteté. Et même ça, il s'en occupe. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, merci encore parce qu'on peut compter sur toi dans tous les domaines de notre vie. Nous savons que tu es ce Dieu puissant, vivant et vrai en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Nous voyons ce domaine où tu nous rappelles l'importance des enseignants, l'importance de ceux qui prêchent ta parole, l'importance de ceux qui se mettent devant pour diriger ton Église. Merci déjà parce que tu les as établis. Et je te prie encore une fois de nous aider à nous y soumettre, nous aider à les écouter, nous aider à nous laisser diriger par ta parole qu'ils proclameront. C'est ta parole qui nous dirige. Notre Dieu, notre roi, nous te prions aussi que nous sachions les honorer, que nous sachions aussi les protéger, que nous sachions, éternel roi, savoir aussi désigner là où le péché est et ne pas le laisser traîner, ne pas jouer avec le péché, ne pas traîner avec le péché, notre Dieu. Et enfin, je te prie que tu lèves des hommes et des femmes soucieux de ta parole, soucieux de ta personne, soucieux des autres qui t'aiment tellement et qui aiment les autres et qui haïssent le péché. Lève des hommes de cette trempe dans l'église de sa mort. Que de plus en plus d'hommes et de femmes, éternel roi, se lèvent pour servir ton nom avec sainteté, avec joie, avec amour, avec passion. Et je te prie encore une fois pour un leader, un pasteur qui pourra les diriger dans la sainteté, dans l'amour, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ. Que ce soit toi, notre roi, qui bénisse cette église, qui bénisse mes frères et sœurs, qui les encourage et les restaure. Et je te prie encore pour des personnes qui, peut-être cet après-midi, viennent lourdes à cause de leurs fautes, à cause de leurs inquiétudes, de leurs anxiétés. Révèle-toi à elles cet après-midi et montre-leur que tu es le Dieu Tout-Puissant qui pardonne, qui libère, mais qui aussi qui aide à marcher dans la sainteté. Béni sois-tu, Jésus, pour ce que tu as fait encore sur la croix. Tu as tout porté. Et maintenant, on peut vivre en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.